Alors Michel, comme je l'annonçais tout à l'heure, nous restons dans la politique narbonnaise et plus exactement d'ailleurs socialiste ou socialisante, si on peut me permettre ce qualificatif.
Oui, alors il n'y a aucune relation, comment dirais-je, liée entre cette chronique et puis la présence de Didier Mouly,
Oui, une
effectivement.
relation
Donc il se trouve,
chronologique,
voilà,
on va dire, chronologique.
on l'a pas
Mais ça tombe bien,
tu n'as pas invité
peut-être.
en lui disant, attends, Santo, il va chroniquer sur le socialisme. Non, pas du tout. Il se trouve que l'actualité fait que, bon, voilà, il y a un certain nombre de choses qui m'ont surpris pendant cette semaine dernière et que je note dans mes chroniques comme je le fais d'habitude. Alors, Jean-Claude, mais nos auditeurs le savent maintenant, hein, les réseaux sociaux, les Facebook, Twitter, bon, sont désormais, hein, en dehors des médias classiques, hein, des vecteurs d'informations massives qui sont à la portée de milliards d'individus, donc, hein, et les politiques, hein, partis, militants, élus, etc., ont investi ce champ. Donc, Narbonne a sa page sur Facebook, hein, Didier Mouly a son compte Twitter, enfin bref, tous les politiques sont sur les réseaux sociaux, et toutes les deux minutes, pour ceux qui sont accros à Twitter, tweetent, hein, leurs collaborateurs envoient des messages sur Facebook, etc.,
Oui.
etc.
On ne
Bon.
sait pas, petite parenthèse, si Cambridge Analytica pirate ces données pour les revendre à qui que ce soit sur Narbonne.
J'en
Enfin,
sais rien. En tout cas,
grand point
on peut pas y
d'interrogation.
échapper, quoi. Quand on s'intéresse un peu à la vie politique d'une cité comme la nôtre, hein, qui n'est pas bien grande, mais quand même, qui a sa vie politique
Ah, bien
intense,
sûr,
quoi, hein, on peut
bien
pas ne
sûr.
pas y aller, quoi. Alors, il se trouve que je jouis, enfin, je jouis, alors, je mets des guillemets, quoi, hein, d'une relative influence dans le milieu. Donc j'ai beaucoup d'amis, enfin, qui sont inscrits, faites sous ma page, hein, et qui appartiennent, hein, à différents partis, de droite et de gauche, des élus, faites président d'agglo, faites maire, etc., qui me lisent et qui commentent, faites les billets que je mets sur ma page, notamment. Et j'avais fait un billet sur parce que j'ai été surpris par comment dirais-je. Les messages envoyés sur ces réseaux sociaux par un certain nombre de personnalités politiques socialistes locales. Et notamment, bon, ils ont un nom, quoi, hein, Nicolas Sainte-Cluque, entre autres, hein, qui ne cesse d'envoyer sur sa page Facebook, hein, et notamment sur la réforme de la SNCF, hein, enfin, des messages qui reprennent, hein, parce que ce sont des copies, qui reprennent des slogans et des analyses présentées par Sudrail, c'est le syndicat le plus radicalisé de la SNCF, hein, tenu par des trotskistes, bon, particulièrement virulents. C'est pas Manuel Valls de l'époque. Je dis Manuel Valls parce que Sainte-Cluque était un soutien de Manuel Valls. Tu vois,
Oui,
déjà pour montrer l'écart, en fait, l'écart idéologique, quoi. Hein,
c'est
bon,
un grand écart.
Un grand écart, quoi, hein, mais pas que ça. Hein, l'autre jour, c'était aussi, fait, la reprise d'un tract, fait, ou d'une analyse de La France insoumise, en fait, mais d'une violence sur un autre sujet, je sais plus lequel c'était, bon, peu importe. Mais il n'est pas le seul. Donc beaucoup de ses amis, pareil, fait, engagés, reprennent systématiquement ça. Et alors j'ai fait un billet qui a suscité quelques réactions de la part de l'intéressé, d'ailleurs, qui me dit, qu'il était sous le contrôle d'un commissaire du peuple, fait, macroniste, qui le suivait pas à pas. Bon, pas du tout, quoi. Il se trouve que je relevais effectivement ce type de comportement, d'écart idéologique qui m'apparaît flagrant, et qui, en même temps, ce que je dis dans mon billet et que je dis ici, souligne, hein, le vide, fait, idéologique, aujourd'hui, dans lequel se trouve le PS, c'est-à-dire dans l'incapacité de produire la moindre idée, la moindre analyse originale, en fait, hein, ou qui se distinguerait de la gauche en est réduit, en fait, à reprendre bêtement, j'allais dire, hein, les propos tenus par Mélenchon et ses amis.
Oui,
mais il n'est pas le seul.
À aller chercher de la marchandise dans le magasin
Voilà,
d'à côté qui n'est pas du tout approprié,
voilà,
apparemment.
Mais il n'est pas le seul. Bon, je ne donne pas son nom, mais il y a aussi un maire de Narbonne, là, qui est aussi vice-président de la loi, qui pareil, tous les jours, hein. Alors lui, il était même pas valsiste, il était hollandien pur sucre, lui, hollandien tendance de droite, même.
Hein. Parce qu'il avait reçu.
Ah, il avait même reçu son village, quoi. Hein. Et,
exact, oui.
Et le lendemain, il y avait même un article de presse dans lequel, bon, on lisait qu'il espérait que Hollande reprenne un jour, en fait, de l'activité politique, et, parce que c'était le meilleur, et il devrait être réélu sans problème. Enfin, je veux dire, on en est là, quoi.
Hein. Oui, là c'est d'un réalisme échevelé.
Et je conclue en faisant observer que, contrairement à ce que l'on peut espérer dans ce genre de situation, ça vaut aussi pour la droite, d'une certaine manière, hein, ce que je vais dire là, reprendre d'une manière aussi mécanique, hein, les slogans, les thèmes, en fait, et les analyses de la gauche, hein, et donc de Mélenchon, hein, c'était de fait, hein, légitimer son discours, en fait, au Mélenchon en question, et donc, comment dire, je le confortais dans sa position politique, ce qui, franchement,
oui,
notamment pour la prochaine municipale de Narbonne, n'est pas la meilleure des stratégies, me semble-t-il, pour se distinguer, effectivement, de cette gauche-là. Parce qu'elle y sera, cette gauche, voilà, de la gauche.
Et qui n'est pas la meilleure des choses, ni sur le plan politique, ni sur le plan des futures élections municipales.
C'est ce que je viens de dire à l'instant, de sorte que, voilà, bon, je soulignais ce genre d'écart, en fait, qui me semblait symptomatique d'une situation interne, en fait, au PS, qui était très compliqué, en fait, hein, au point de vue idéologique et du point de vue de son positionnement, et qui, de fait, bon, voilà, croit, pour certains d'entre eux, notamment celui qui prétend un jour occuper le siège, le fauteuil de Didier Moudy, qui croit que, oui, effectivement, en étant derrière la France insoumise, on allait pouvoir élargir sa base électorale, exister, en fait, et puis conquérir le pouvoir. Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie.
Oui, mais une analyse qui est, pour dire le moins, surprenante.
Exactement.
Alors, il y aurait éventuellement un autre candidat, c'est celui que nous avions à ce micro la semaine dernière, qui est actuellement député macronien, En Marche, comme on dit, qui n'a pas caché que, éventuellement, il pourrait y aller si on le sollicitait assez fortement.
Oui, disons que voilà, il a, c'était à Radio Barque la semaine dernière, voilà. Hein, alors c'est vrai qu'il a tenu des propos, comment dirais-je, qu'un auditeur un peu distrait, hein, aurait pu, voilà, écouter comme ça, mais sans y prêter trop attention et sans en tirer de grandes conséquences, en fait, politiques, quoi, hein, voilà. Sauf que, bon, quand on a une oreille un peu attentive à ce genre de propos et quand on connaît un peu comment fonctionnent, en fait, les politiques, se trouve que je les connais un peu.
Voilà,
quand même.
Tu as fait une analyse sur cette candidature éventuelle.
J'ai fait une analyse subliminale, fait, effectivement, de ce qui a été dit, fait pour en saisir, fait, la dynamique interne, mais rationnelle, quoi.
Voilà. Alors, révèle-nous le subliminal caché, là.
Ah oui, non, mais là, bon, il a clairement annoncé qu'il avait envie, effectivement, d'aller au municipal, bon, pour effectivement conduire une liste et, si possible, gagner la bataille des municipales.
Ce qui impliquerait ipso facto qu'il ne serait plus député.
Le problème, et on va y venir, le problème, c'est que il y a deux hypothèses dans sa stratégie. Soit il obtient l'investiture de la République En Marche pour tirer cette liste, ce qui ne va pas de soi, en fait. Pourquoi ? Parce que, dans l'imaginaire tel que le perçoivent aujourd'hui les citoyens de la pensée politique des macronistes, hein, le cumul des mandats entre députés et maires, d'abord il est interdit par la loi, mais même si, même avant effectivement d'être en situation de devoir choisir entre l'un et l'autre, pour être maire tout en étant député,
oui,
je doute fort que ça marche beaucoup.
C'est,
ça. Hein,
c'est interdit par la loi et un peu interdit par la morale macronienne.
Non, c'est interdit par la loi d'être candidat.
Simplement, c'est le système macronien qui veut pas qu'on cumule la candidature à un autre poste exécutif. En étant déjà dans
Dans la morale macronienne.
Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer, effectivement. Ça, c'est le premier point. Hein. Deuxièmement, c'est que, bon, si son désir, parce que je crois que son désir quand même est très très profond, hein, il pourrait dire après tout, je m'en balance, quoi, hein, du label, et j'y vais seul. J'y vais seul avec qui? Bon, avec des anciens socialistes.
Semble peu probable.
Avec des macronistes de droite, dont certains sont au conseil municipal, d'ailleurs, et dans la propre majorité de
Didier
Moudy.
Il y en a.
Il y en a qui sont partis. Bon, je pense à Nathalie Granier. Bon, je pense à d'autres. À Garbé, Mme Zora. Il y en a quand même quelques-uns.
Mais ça fait pas encore une liste.
Et puis j'ajoute, bon, hypothèse aussi, après tout, les macronistes, enfin Macron et Castaner en particulier, le patron du parti, a clairement dit qu'il n'était pas forcément admis qu'il y aurait des candidats et des listes de Macron à toutes les municipales et qu'il pouvait labelliser, en fait, hein, des listes qui seraient compatibles. Alors la question, bon, on la pose, tiens, à Didier Moulier, est-ce qu'il se sent compatible avec, avec Macron, et est-ce qu'après tout, bon, nous, on pourrait envisager, comment dirais-je, une espèce de rapprochement avec le macronisme en général, comme Juppé fait et d'autres, hein, qui permettrait effectivement d'obtenir un label. C'est pas exclure. Alors, puis la dernière hypothèse, bon, tout ça, ça marche pas, hein, puis voilà, il décide d'y aller, quoi. Il décide d'aller, et encore une fois, dans quelles conditions, avec quand même des risques non négligeables d'un point de vue personnel. Pourquoi cette analyse-là, bon, a perturbé un certain nombre de lecteurs, notamment le principal intéressé, quoi, mais d'autres, hein, c'est qu'effectivement, d'un point de vue strictement rationnel, quand on sait en plus, que si la réforme constitutionnelle passe, il n'y aura plus que deux députés dans le département de l'Aude. Et un sénateur, en fait, à terme. Voilà. Hein. Ça veut dire qu'il y aura forcément un député de la Haute-Vallée de l'Aude, Carcassonne.
Qui va le sera,
si et la compétition, dire. La compétition sera entre l'actuel, c'est une dame députée de la première, et qui est madame Hérin, et puis, Péréa, qui est la première. Et là, bon, qui va sortir des deux? Compliqué pour lui.
Donc c'est aussi un regard, éventuellement, sur l'avenir. Nous marquons une deuxième pause à la suite de laquelle nous retrouverons donc Didier Mouly avec la première question, je la dis tout de suite, ça sera: Monsieur Mouly, êtes-vous Macron compatible ?